Mes amis, en cette soirée du 25 juillet, nous poursuivons notre étude sur le thème « Connais-toi toi-même » à la lumière du livre de Job. Et comme chaque jour nous l'avons fait, nous repassons ce texte de Romains 11 dans nos cœurs et sur nos lèvres. Ô profondeur de la richesse, ce soir, nous vous avons proposé la lecture des chapitres 25, 26, 27 et 28 de ce livre de Job, ce qui fait 71 versets. Et ces textes contiennent le troisième et dernier discours de Bildad et la réponse que lui fit Job. Nous voulons invoquer la grâce du Seigneur. Notre Dieu, Père de miséricorde, Père de grâce, Père saint, Père juste, Père des lumières, nous venons à toi comme des enfants qui se savent aimés de leur père. Nous avons besoin de ton secours. Nous avons besoin de rencontrer ton regard paternel, ce regard qui encourage, ce regard qui sanctifie aussi, ce regard qui nous permet de nous oublier nous-mêmes pour nous perdre totalement en toi, dans tes bras, pour connaître vraiment cette divine étreinte et ce ressourcement si nécessaire à nos vies, à chaque heure et à chaque instant. Nous te bénissons pour ta fidélité. Nous te bénissons parce que ce soir, nous pouvons compter sur toi pour exalter le nom de Jésus, ce nom au-dessus de tout nom, ce nom qui nous a sauvés, ce nom qui nous permet de nous tenir debout, ce nom qui nous sanctifie. Ô notre Dieu, nous te bénissons aussi pour ce nom qui guérit nos âmes et qui peut aussi guérir nos corps par sa toute-puissance. Oui, nous voulons te demander que nous puissions honorer ton nom et l'honorer de toute notre force, de tout notre être, de toute notre âme, de toute notre pensée. Vis pleinement en nous. Nous te louons, ô Père, pour la promesse que Jésus faisait en disant que celui qui garderait ta parole, ton Père l'aimerait. Et que tu ajoutais, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Ô Dieu, merci de n'être pas un Dieu de loin, un Dieu qui habite la lumière inaccessible, mais aussi un Dieu qui habite avec celui qui a l'esprit brisé et humilié. Et c'est notre attitude ce soir devant toi. Et nous croyons que de ta plénitude, les uns et les autres, nous pouvons recevoir dans cette fin du jour, après ce cantique du soir, grâce sur grâce, en attendant la gloire. Amen. Eh bien aimé, ce matin, nous nous sommes arrêtés à la réponse de Job au discours violent d'Éliphaz. Et on peut bien penser que ce vieux sage avait perdu tout son sang-froid pour accuser son ami d'une façon si brutal, si injuste et si mensongère. Comment peut-on se dire ami? Comment peut-on aller trouver celui qui est dans la détresse avec, semble-t-il, de bons sentiments au début et en arriver à ce troisième discours qui nous bouleverse nous-mêmes? Alors mettez-vous dans la peau de Job, dans la peau de celui qui souffrait, et essayez de comprendre quelles pouvaient être ses réactions. Et c'est là qu'on voit que Job était réellement dominé par un esprit de patience. Et c'est bien ce qui est souligné dans l'épître de Jacques. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Patience au travers de ses premières épreuves, mais aussi patience après avoir connu tous les dépouillements successifs que nous avons vus dans le prologue. Au sein de sa maladie, patience de jour, patience de nuit, patience aussi avec sa femme, sachant contrôler sa langue. Et c'est encore Jacques qui nous dit que celui qui est maître de sa langue, eh bien, il est maître aussi de tout son corps, de tous ses sens. Bien, nous avons cela qui est si remarquable chez Job. Et voyez-vous, je pensais en méditant sur ce discours d'Éliphaz que quand on veut avoir raison et imposer notre vérité, ce que nous croyons être la vérité, alors que c'est notre vérité, et que nous voulons l'imposer aux autres, on devient parfaitement insupportable et détestable. Alors que le Seigneur nous enseigne, pour que nous ne soyons pas dans le prolongement d'un Éliphaz, d'un Bildad ou d'un Tsophar, c'est une leçon que nous apprenons à l'école de Jésus. Apprenez de moi. Nous avons un autre maître. C'est pourquoi nous aimons répéter les paroles que Jésus disait, vous n'avez qu'un seul maître. Finissez-en de parler de vos maîtres et acceptez de n'avoir qu'un seul maître, comme vous acceptez aussi de n'avoir qu'un seul Père, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais quand on s'y arrête, ça nous rend fous de bonheur. Le Père de mon Seigneur Jésus-Christ veut bien être mon Père. Et il peut y avoir une telle intimité avec le Père de Jésus-Christ que je puis lui dire « Papa, Abba », c'est-à-dire « Père ». Arriver jusque-là, ce terme si intime de l'enfant qui dit « Papa », nous invoquons Papa. Celui qui est plein de tendresse, plein d'amour, plein de compréhension et qui n'est jamais loin de nous. Nous croyons quelquefois qu'il nous délaisse, nous ressentons une solitude, mais croyez-le, ce n'est pas lui qui s'est éloigné, c'est toujours nous. Alors revenons, revenons encore, mes bien-aimés, dans les bras du Seigneur. Et comprenons que ce qui compte dans nos contacts avec nos amis ou avec nos frères, comme je l'ai dit plusieurs fois, ce n'est pas que nous triomphions sur l'autre, mais que Dieu ait raison de nous. Et quand je pense à ce torrent de calomnie et cet appel à un retour à Dieu qui suit ces ignobles accusations d'Éliphaz, bien, vous voyez que Job n'a pas répondu directement à cet ami. Il n'est pas entré dans ce sujet-là tout de suite. De sorte que dans cette complainte que nous avons vue ce matin du chapitre 23e, vous le voyez s'adresser ni à ses amis, ni au Seigneur, qui semble absent. Depuis le jour où Job a maudit son jour de naissance, savez-vous que des mois ont passé, il le dit, des mois de souffrance, et c'est long. Et ses amis n'ont fait qu'augmenter sa douleur et le fortifier dans sa propre justice, dont Dieu justement cherchait à le guérir. Eh bien, ses amis l'enfonçaient encore dans cette propre justice. Il n'était d'aucune aide pour le bien suprême de Job. Et de son côté, Dieu gardait encore le silence.
Peut-être que Job s'attendait à une vision, à une visitation, comme nous-mêmes aussi. Il y a des moments où nous passons par une si grande épreuve et nous disons, mais Seigneur, ou si tu me donnais une vision, au moins si dans mon sommeil j'avais un songe, où tu pourrais me parler comme aux hommes d'autrefois. Oh Seigneur, j'ai besoin que tu me parles. Alors là, je vais un petit peu vous détendre, hein, mais ça m'est arrivé à moi, il y a quelques années, il y a 4 ans je pense. J'étais dans un état physique lamentable et je devais diriger une grande retraite de Pentecôte en Suisse. Et pour moi, j'avais espéré que ma femme étant médecin ferait un certificat pour que je n'aille pas. Mais comme elle a promis au Seigneur que jamais elle ne m'influencerait de ce côté-là, elle était convaincue que malgré mon état physique, je devais partir et faire face. Je suis arrivé en Suisse, parce que cette grande convention avait lieu en Suisse, et puis j'ai logé dans ma famille, chez une sœur qui est veuve, et c'était l'anniversaire de la mort de son mari, qui lui avait été repris 5 mois avant que moi je perde aussi la mère de mes enfants. Eh bien, j'ai voulu lui faire un cadeau, un plaisir. J'étais pour une nuit là. Et alors, avec les meilleurs sentiments, je lui avais acheté quelque chose, un truc pour entendre des enregistrements de cassettes, pas les miennes, pas du tout, c'était pas ça. Et un petit pote qui était bien, enfin, c'était dernier cri. Et voilà ma sœur qui a 4 ans plus que moi, elle n'a pas compris ça. Puis peut-être qu'elle pensait, il fait des frais, et puis c'est déjà un homme qui n'a pas un salaire, etc. Pourquoi est-ce que tu fais ces choses-là? Puis moi, je ne mentirais pas avec ça. Alors, elle m'avait plutôt rabroué, alors que moi, j'y allais de tout mon cœur. Mais il faut savoir cela. Je m'étais trompé, probablement. Mais cela, dans mon état physique, je me vois encore dans le lit. Et j'ai dit, mais pourquoi, Seigneur, est-ce que je suis ici et pourquoi est-ce que ma femme ne m'a pas aidé pour que je n'aille pas, parce qu'il y a d'autres hommes qui peuvent me remplacer. Je ne suis pas un être indispensable. Et il était à peu près minuit et le lendemain matin, je devais partir. Alors, je prends ma Bible comme ça, hein, dans ce moment de détresse, parce que je voudrais bien que vous ne pensiez pas que je suis un mythe, hein. Non, il faut démystifier tout ça, hein. Alors, je prends ma Bible et puis je dis, Seigneur, tu pourrais bien me donner ça. Puis je venais de lui dire, pourquoi est-ce que ma femme m'a dit ça? J'ouvre ma Bible avec la lumière. Je pointe. Et sa femme lui dit, maudit Dieu est mort. Je l'ai vécu. Vous voyez ce qui peut arriver, hein? Alors, je n'ai pas cherché ailleurs. Je voulais dormir. Et sa femme lui dit, maudit Dieu. Et vous voyez ce qui peut nous arriver, hein? On a souvent raconté l'histoire de celui qui a essayé aussi d'avoir un encouragement. Et puis voilà, il tombe et Judas sortit et se pendit. Alors, il referme sa Bible et puis il la roule et il pointe. Va et toi fais de même. Vous voyez que c'est quand même dangereux ce système. Je ne vous dis pas que Dieu dans sa miséricorde ne peut pas vous donner une parole, hein, mais ne tombez pas dans ce piège, hein, parce que Satan il est là aussi, hein, puis il doit ricaner drôlement quand il nous voit là, dépendant d'un texte pour aller plus loin. Mais c'est de ton cœur, Seigneur, que je vais recevoir ta grâce. Alors de nouveau, il faut s'abandonner, il ne faut pas chercher à s'en sortir soi-même. Pourquoi ne me fais-tu pas confiance? Tu es fatigué ce soir. À chaque jour suffit sa peine. Demain sera en souci de lui-même. Ne t'inquiète pas pour demain. Et puis finalement, bien, je me suis endormi. Je vous dis ça en passant pour vous montrer que, au fond, c'est vrai ce livre-là, ce livre de Job, mais on passe par des moments
difficile. Et il nous semble qu'on est un peu abandonné. On a des bons sentiments, puis ça marche tout autrement qu'on ne le pense. Et alors, vous voyez, il vient d'être accusé de tous les crimes possibles, c'est quelque chose d'épouvantable, et cela par un ami, ce Job. Et, eh bien, il entre dans cette complainte, il répond de son âme, il ne répond pas à ses amis, il ne s'adresse pas tout à fait à Dieu, mais enfin, il parle. Et ça me touche vraiment, parce que qu'est-ce qu'il dit ? Il voudrait une audience. Il voudrait une audience auprès de Dieu. Il voudrait être reçu, parce qu'il sent bien que du côté de ses amis, c'est l'incompréhension totale. Et puis, Dieu ne lui répond pas, mais il ne sait pas pourquoi. Alors, qui est-ce qui pourrait lui donner une audience auprès du grand responsable ? De tout, puisque rien n'arrive sans sa volonté. De lui, par lui, pour lui, puis moi je comprends pas pourquoi ces choses-là sont-elles bien, je voudrais avoir une explication. Donc, c'est la preuve qu'il est innocent, parce que vous n'allez pas devant le juge suprême si vous vous sentez déjà coupable. Il est sûr de son acquittement, c'est ce que nous avons lu. Il est sûr d'être acquitté s'il avait une audience avec le Seigneur. Mais où le trouver ? C'est cela la difficulté. Alors je vous dis, l'arabe, lui, il voulait monter. Oh, si je pouvais parvenir là où il est assis. Il avait ce besoin. Et ça, c'est le besoin du cœur de l'homme. On voudrait avoir une explication avec Dieu sur tant de problèmes qui nous préoccupent. Alors l'arabe voulait monter jusqu'à lui, tandis que le juif ou l'israélite, Esaïe, lui, il s'écriait, « Oh, si tu fondais les cieux, si tu voulais descendre. » L'arabe voulait monter et pour le trouver, et puis l'israélite voulait le faire descendre. Mais cela montre que c'est un besoin du cœur de l'homme de voir Dieu. Si Dieu existe, on voudrait le voir, on voudrait l'entendre, mais d'une façon vraiment personnelle. Et c'était là le besoin de l'humanité. Et pour répondre à ce besoin, le Seigneur de gloire a consenti à l'incarnation. Et il s'est incarné. Et pour pouvoir approcher tous les hommes, pour que ces hommes ne meurent pas à son contact, parce qu'on ne peut pas voir Dieu et vivre, eh bien, il a abandonné sa gloire, il s'est anéanti, cette gloire qu'il avait auprès du Père avant que le monde fût, il l'a laissée, et il s'est dépouillé lui-même, et il a accepté de revêtir ce corps qui a été façonné comme les nôtres dans le sein, alors, de la Vierge Marie, conçu, c'est là la différence, du Saint-Esprit, mais dans le sein d'une femme. Et c'est pourquoi il est dit que le Seigneur est né d'une femme. Notre salut vient d'une femme qui a laissé le Seigneur posséder entièrement son corps. C'est un mystère adorable, mais quand même, n'est-ce pas ? Ne négligeons pas cet exemple. Et c'est ce qui m'a fait écrire les leçons de Marie, parce que bien avant le concile, je trouvais que dans notre protestantisme et dans nos milieux évangéliques, on parlait de toutes les femmes possibles de la Bible, mais pour ainsi dire, jamais de Marie. Hein. Comme si on n'osait pas en parler. Alors qu'elle est pour nous un exemple quand elle accepte la volonté du Dieu, qu'elle accepte que Dieu fasse en elle ce qu'il voudra, c'est alors qu'elle est la servante du Seigneur. Et vous n'êtes servante et serviteur du Seigneur qu'au moment où vous lui dites, Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Vous cessez de vouloir faire quelque chose pour le Seigneur, vous cessez de prendre vous des initiatives, parce que la vraie initiative chrétienne, c'est une obéissance. Le Seigneur en a assez de nos initiatives, de tous nos projets que l'on fait pour lui et qu'il ne nous a pas demandé de faire.
alors qu'il a préparé lui-même les bonnes œuvres dans lesquelles il voudrait nous voir marcher et que nous aurions à accomplir, non pas avec notre propre force, mais par la force qui nous est donnée de lui. Eh bien oui, il s'est incarné et cette parole qui était auprès de Dieu est devenue chair, c'est le prologue de Saint Jean, et la vie qui était auprès de Dieu, la vie éternelle, elle a été vue, elle a été manifestée en Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est que la vie éternelle? C'est une personne, ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. Et avoir la vie éternelle, c'est être habité par cette personne. Et dans ce chapitre que nous avons revu ce matin, eh bien, vous avez vu ces éclairs de foi. Après avoir avoué qu'ils se sont seuls, ils ne le voient ni devant, ni derrière, ni à droite, ni à gauche, ils s'écrient pourtant, mais ils connaissent la voie que j'ai suivie. Il m'éprouve, je sortirai comme de l'or. Voilà un éclair de foi. Il admet que, au fond, cette épreuve pourrait être bénéfique pour lui, dans ce sens-là, que l'or épuré, eh bien, a plus de valeur encore que l'or qui contient des scories. Et j'ai pensé ce soir, comme je l'ai fait la semaine dernière, vous lire dans une autre traduction ces passages rapidement et nous arriverons à nos textes. Je relis la réplique de Job au chapitre 23 pour que vous ayez, ça c'est la version en français courant, pour que vous puissiez faire une comparaison, parce que le but de ce temps, c'est de vous permettre de comprendre vraiment la signification de ces textes de Job. J'ai beau vouloir étouffer mes gémissements, encore maintenant ma plainte est la plus forte. Ah, comme j'aimerais savoir où trouver Dieu. Je me rendrai alors jusqu'à sa résidence, et je pourrai ainsi lui exposer ma cause. Je lui présenterai mes nombreux arguments. Je connaîtrai quelle réponse il me ferait. Je comprendrai enfin ce qu'il tient à me dire. Lui faudrait-il un grand effort pour m'affronter? Mais non, il suffirait qu'il me prête attention. Il pourrait s'expliquer avec un homme honnête. Et lui, mon juge, m'acquitterait pour toujours. De cela, il est certain. Mais si je vais à l'est, il ne s'y trouve pas. Je me rends à l'ouest et je ne l'aperçois pas. A-t-il affaire au nord? Non, je ne l'y vois pas. Se cache-t-il au sud? Je ne remarque rien. Pourtant, il connaît bien le chemin que je suis. Il m'a mis à l'épreuve. Vous voyez quand même, il y a un progrès depuis qu'il maudissait son jour. Mais j'en sortirai pur. Voilà encore un éclair de foi. J'en sortirai pur comme l'or du creuset. Je me suis fermement attaché à ses pas. J'ai suivi son chemin et je n'en ai pas dévié. Je n'ai pas refusé ce qu'il me commandait. J'ai gardé mon cœur, dans mon cœur, tout ce qu'il m'ordonnait. Et il vient d'entendre les calomnies d'Éliphaz. Mais il n'a qu'une pensée qui l'en fera changer. Il n'en fait qu'à sa tête. Là, c'est pas très heureux, mais enfin, c'est ce qu'il pense quand même. Au fond, Dieu poursuit son idée. Il accomplit pour moi ce qu'il a décidé, comme tant d'autres plans qu'il a mis en réserve. Voilà pourquoi je perds courage devant Dieu. Oui, plus je réfléchis, et plus j'ai peur de lui. Mais c'est là que nous devons changer de sentiment. Nous ne devons pas avoir peur de Dieu, nous devons avoir la crainte de Dieu, c'est-à-dire la peur de lui déplaire, mais nous ne devons jamais avoir peur de lui. Un enfant peut toujours venir
vers son père. Il ne doit pas avoir peur. L'amour parfait bannit la crainte. Oui, plus je réfléchis, plus j'ai peur de lui, car c'est bien Dieu qui affaiblit ma résistance, c'est ce qu'il pense, et qui me terrifie par sa toute puissance. C'est pas la mort qui lui fait peur, mais c'est le Dieu qui règne. Pourtant, malgré la nuit, je ne me suis pas tu, malgré l'obscurité qu'il fait tomber sur moi. Puis, alors, vous avez ce fameux chapitre 24, pourquoi Dieu, le Tout-Puissant, vous voyez que c'est un temps très reculé, car cette expression, le Tout-Puissant, c'est une expression que l'on connaît dans la Genèse, quand Dieu apparaît à Abraham et se révèle à Abraham, il lui dit, je suis le Dieu Très-Haut ou le Tout-Puissant. Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois parfait. C'est ainsi que les patriarches connaissaient Dieu, sous ce nom du Tout-Puissant, celui qui peut tout. Pourquoi Dieu, le Tout-Puissant, n'a-t-il pas prévu des jours où il exercerait son jugement, où ses fidèles le verraient intervenir au sujet de ses injustices sociales? Et nous nous demandons aussi nous-mêmes, pourquoi nous ne voyons pas des temps où vraiment le méchant est châtié. On voudrait voir ces temps-là, où la justice est rendue par Dieu au sujet des méchants. Mais vous savez ce qu'il y aurait eu? Nous ne serions pas ici ce soir. Nous aurions tous été exterminés. Vous voudriez voir que Dieu châtie le méchant. Mais Dieu, dans ce temps-ci, qui est un temps de grâce, ne veut pas la mort du pécheur, mais sa conversion et sa vie. Alors, ce n'est pas qu'il laisse tout aller, mais il voudrait donner du temps à l'impie pour se convertir. Et souvenez-vous que quand vous avez saisi la grâce de Dieu, vous étiez des impies. Christ, au temps convenable, est mort pour les impies. Nous étions tous des pécheurs. Nous marchions selon les convoitises de nos yeux. Alors, comprenons-le. Là, nous égarons. On voudrait que Dieu ait établi un temps où nous verrions le mal jugé. Or, voilà, des gens déplacent les bornes de leurs champs, d'autres font paître les troupeaux qu'ils ont volés, certains font part de l'âne des orphelins, ou prennent en garantie le bœuf de l'aveugle. C'était l'éthique, la morale des patriarches, au temps des patriarches. Les malheureux sont bousculés hors du chemin, les pauvres du pays n'ont plus qu'à se cacher, tels les ânes sauvages des terres désertes, ils partent au travail et cherchent dans la steppe quelque chose à manger pour nourrir leurs petits. Et c'est tout à fait des temps modernes aussi. Ils doivent ramasser de l'herbe dans les champs, ils doivent vendanger la vigne du méchant, mais ils n'ont pas de quoi se couvrir pour la nuit, pas de couverture pour résister au froid. Ils sont trempés par les averses des montagnes, faute d'abri, ils se serrent contre un rocher. On arrache l'orphelin au sein de sa mère, en garantie, on prend aux pauvres leur manteau, on les réduit à marcher à peine vêtus, à porter des gerbes de blé, le ventre creux. Oui, c'est ça, n'est-ce pas? Porter des gerbes de blé qui pourraient nourrir le ventre creux. À presser des olives au moulin à huile ou à préparer du vin sans pouvoir y goûter. Bien, vous voyez, c'est un texte très limpide qui est fidèle et qui se lit facilement. Et je veux croire aussi qui se comprend peut-être plus facilement que le texte même de la colombe. C'est pourquoi n'ayez pas de préjugés, et si cela vous aide, bien procurez-vous une de ces Bibles en français courant, si vous voulez vous aider à comprendre. Puis, dans la ville, les gens font entendre leurs plaintes. Le râle des blessés est un appel à l'aide. et Dieu reste insensible à ces faits scandaleux. Mais vous voyez, voilà qu'il y a eu une guerre, voilà qu'il y a eu une bataille, mais on en parle toujours dans les journaux. Il y a eu des massacres ici, des massacres là, et puis, qu'est-ce que vous lisez? Eh bien, les gens ont été transportés à l'hôpital, et alors vous voyez, ces cris des mourants, ces cris des blessés qui sont là, en pleine chaleur, surtout en Orient, et qui gémissent, et puis, il semble que Dieu n'intervient pas. Les méchants sont de ceux qui n'aiment pas le jour, ils ne fréquentent pas les chemins éclairés, ils ne s'y tiennent pas, le meurtrier se lève à l'approche de l'aube, il assassine le pauvre, le malheureux, il se fait voleur quand la nuit est venue. Le mari infidèle, au lieu de dire l'adultère, n'est-ce pas? Il y en a qui ne savent pas encore très bien ce que c'est. Eh bien, si vous dites le mari infidèle, on sait ce que c'est. Hein? Le mari infidèle guette aussi le soir en se disant « je passerai inaperçu ». Alors il cache son visage sous un voile. C'est dans la nuit que le voleur perce les murs. Pendant le jour, il se tient enfermé chez lui. Il n'a aucune idée de ce qu'est la lumière. Pour eux tous, le matin est un sombre moment, tant ils sont familiers des horreurs de la nuit. Et voyez-vous, il a été traité de méchant, d'injuste, par Eliphaz. Et il nous montre que lui aussi, il sait ce que c'est qu'un méchant, ce que c'est qu'un injuste. Et il en fait un tableau autrement plus vivant qu'Eliphaz, qui pensait soi-disant à Job. Mais vous, vous affirmez, et c'est en effet ce que ses amis affirmaient, les méchants sont vite emportés au fil de l'eau. Leur domaine devient une terre maudite. Ils ne prennent plus la direction des vignes, comme neige au soleil, aussi disparaissent vers le monde, ils disparaissent vers le monde des morts. Tous ceux qui sont coupables, celle qui les a mis au monde les oublie, ils sont un mets de choix pour les vers des cadavres. On cesse tout à fait de parler de ces gens. Voilà le mal brisé comme un morceau de bois. C'est ce que vous avez dit. Et pourtant, dit Job, moi je vois des gens qui continuent à être méchants et qui ne sont pas châtiés. Ces gens ont maltraité la femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant, ou bien n'ont pas montré de bonté à la veuve. Mais Dieu a la force d'expulser les tyrans. Il surgit et ceux-ci sont plus, ne sont plus sûrs de vivre. Il les laisse parfois se croire en sûreté. Mais pensez à ceux qui ont dirigé certains peuples, certains pays de nos jours, que ce soit en Haïti ou que ce soit ailleurs. Je ne vais pas entrer dans les détails. Ou à Hawaï, mais il garde les yeux fixés sur la conduite. Ces gens se redressent un peu et plus rien. Ils coupent la terre comme une fleur qui meurt, ils se fanent comme un épi qu'on a coupé. Mais ce que j'ai dit, moi, c'est la réalité. Qui oserait alors me traiter de menteur et réduire à néant ce que j'ai appris? Et alors, c'est après cela, j'ai simplement venu en mémoire, et c'était par l'autre texte, la réponse de Job. Voilà qu'il passe bon un coq pour pouvoir ouvrir la bouche. Mais il n'a plus rien à dire. Alors nous prenons notre texte. Bildad, chapitre 25, de Soir. Son nom veut dire, il y a deux pensées là-dessus, on peut le traduire vieille amitié, ou alors fils de contestation. Bildad de Soir. Il prend la parole et dit, la domination et la terreur appartiennent à Dieu. Il veut exalter lui aussi la puissance de Dieu. Il établit la paix dans les lieux célestes. Y a-t-il une limite au nombre de ses troupes?
sur qui sa lumière ne se lève-t-elle pas? Comment un homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de femme sera-t-il pur? Vous voyez, il se répète, ou il prend des paroles de ses amis et il les fait réchauffer. Mais ce sont des lieux communs qu'il sort. Il n'a plus rien à dire. Et il faudra bien qu'il se taise. Alors, sa brièveté montre bien qu'il est au bout de son boulot.
Voilà.
Comment un homme sera-t-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de femme sera-t-il pur? Voici que la lune, oh, il faut qu'il aille voir la lune. La lune même n'est pas brillante. Et que les étoiles ne sont pas pures. Combien moins l'homme n'est qu'un ver. Alors voilà. Il est plein de verre. Mais qu'un ver congé de l'hiver. C'est quand même un peu terrible. Tu n'es qu'un verre. De qui est-ce qu'il a été dit par un salut? Je suis un verre et non point un homme. Le propre des hommes le méprise. Un fils de l'homme qui n'est qu'un vermisseau. Alors, donc, Job va lui répondre. Alors, la réponse, il n'y a pas de problème, je pense, vous avez compris. C'est une réponse de Job. Comme si c'est bien venir en aide à celui qui n'a pas de force. Tu m'as fait du bien. Je te remercie d'avoir fait un envoi. Comme tu sais bien sauver le bras qui n'a pas de force. Tu me parles juste de la toute-puissance de Dieu, puis moi je me sens sans puissance. Comme tu sais bien conseiller celui qui n'a pas de force. Vous voyez, Job, pense ses amis, je le trouve sans force. Le trouve sans puissance et le trouve sans taille. Quelle puissance de raisonnement tu fais. À qui s'adresse tes propos? Et vous voyez, il suspend la terre sur le néant, en fait, il est fantastique avant de gagner de il n'est jamais vu la mille. Il y a des images poétiques dans les deux hommes, mais des arômes. Par exemple, le soleil se lève et le soleil se lève. C'est très bien que le soleil et le soleil pas dans vous. Mais on parle d'après ce que l'on a. Ce n'est pas un traité scientifique. Et en cosmologie que nous avons. Alors, comprenons et ne discutons pas au sujet de la parole. Ils ne savaient pas ceci, ils ne savaient pas cela. Les anciens, c'était tout des ignorants. Ils montaient de la mer. Tandis que nous, ils descendons vers la chaîne. Bien que le Seigneur nous garde de nous glorifier, car vous savez, le Seigneur ne nous a pas trompé. Les nuées ne crèvent pas sur leur poids. Ils couvrent la face de son trône. Ils déploient sur lui sa nuée. Il a tracé un cercle à la surface des eaux jusqu'à la limite entre la lumière et les ténèbres. Les colonnes du ciel s'ébranlent et s'étonnent à sa menace. Par sa force, il fait trembler la mer. Par son intelligence, il en brise l'orgueil. Par son souffle, le ciel devient immaculé. Vous voyez, toutes ces manifestations que vous voyez dans la nature, eh bien, elles sont attribuées au souffle de Dieu, à l'intelligence de Dieu. Sa main transperce les serpents fuyards, nous aurons l'occasion de revenir là-dessus. Si telles sont les moindres de ces actions, et combien léger est l'écho que nous en percevons. Et Darby a traduit ici, nous n'avons entendu qu'un faible de cité. Nous pouvons comprendre que et c'est tellement vrai. Et je sais très bien que dans ce camp, ce que je peux vous communiquer, ce n'est qu'un faible de choses absolument merveilleuses. Mais si vous pouviez déjà entendre comme c'est très beau, au sommet de la montagne des dieux, du mont Horeb, eh bien, que Dieu nous donne aussi de pouvoir ce soir faire le silence dans nos cœurs et dans l'écho de sa pensée, le murmure de ce que Dieu voudrait nous communiquer. Alors qu'il comprendra le tonnerre de sa puissance. Si vous reprenez le psaume 29, eh bien vous verrez qu'il y a là tout ce qui peut se passer dans la nature, raz de marée, volcan, tremblement de terre, et nous avons des définitions scientifiques pour expliquer tout ce phénomène que l'on dit naturel. Mais derrière tout cela, il est toujours la voix de l'Éternel, la voix de l'Éternel. L'Éternel est derrière tout cela. Il peut empêcher ces choses, mais il peut aussi les permettre comme un jugement. Mais j'aime beaucoup ce verset parce qu'il m'a fait du bien. C'est dans ce psaume 29, il est dit, l'Éternel était sur son trône quand au début. Le déluge était en dessous, mais lui il était sur son trône. Et il voyait ses arches. Et il suivait ceux qui étaient dans l'arche. Il n'y avait hélas que une personne, mais il y avait tous ces animaux. Et Dieu est l'auteur aussi de ces animaux, de leur vie, de leur existence. Et il aime les animaux. Et les animaux ne l'ont pas remis. Tous s'attendent à lui pour recevoir leur lutte. Et vous avez maintenant, chapitre 27, la dernière réponse de Job à ses trois âmes. Job exposa de nouveau sa terre et Dieu est vivant. Et plusieurs fois, malgré son épreuve, il ne pense pas que Dieu est mort. Dieu ne se manifeste pas, mais pour lui, Dieu n'est pas mort. Ce n'est pas un théologien de la mort de Dieu. Dieu est vivant. Lui qui écarte mon droit. Et justement, c'est ça qu'il ne comprend pas. Le Tout-Puissant qui remplit mon âme d'amertume. Mais le Seigneur ne voudrait pas que votre âme continue d'être remplie d'amertume. Il voudrait qu'elle soit remplie de toutes les bénédictions spirituelles. Aussi longtemps que j'aurai ma respiration et que le souffle de Dieu sera dans mes narines, mes lèvres ne prononceront pas d'injustice et ma langue ne murmurera rien de faux. Loin de moi la pensée de vous donner raison. Non, parce que s'il leur donnait raison, donc il avouerait qu'il est puni parce qu'il aurait commis des péchés particuliers, par exemple qu'il n'aurait pas été juste dans ses affaires, ou qu'il aurait dérobé, qu'il aurait méprisé la veuve et les orphelins. Non, il ne peut pas leur donner raison quant aux accusations qu'ils ont porté, et aussi pour lui expliquer pourquoi il a passé par ces épreuves, eux qui n'ont pas eu le livre de Job aussi, eh bien non, il ne peut pas leur donner raison en disant si un homme est éprouvé, c'est à cause de ses péchés. Ce n'est pas vrai. Je ne vous donnerai pas raison.
jusqu'à ce que j'expire, je ne renoncerai pas à mon intégrité. Je tiens à ma justice. Mais voilà, justement, où il est dans l'erreur. Il appelle ça sa justice. Or, qu'est-ce qui nous justifie? C'est pas notre justice. Paul peut dire, quant à ma justice, je t'ai sans reproche, Philippiens 3. Mais il ne se présente pas devant Dieu avec sa justice. Il ne veut pas de sa justice. Paul, il a compris cela. Il se présentera devant Dieu, non avec sa justice, mais avec la justice de Dieu en Christ. Revêtu de la justice du Christ. C'est une justice qui nous est donnée. Car si vous pensez être justifié par vos œuvres, sachez-le bien, mes amis, la meilleure de vos œuvres, dans la lumière de Dieu, elle paraîtra comme un vêtement soulier. Alors ne vous confiez pas dans vos justices, dans vos œuvres, parce que vous pouvez être satisfait de vos œuvres, mais Dieu les voit peut-être ces œuvres d'une façon toute différente. Et pourquoi avez-vous fait ces bonnes œuvres? La plupart du temps, c'est pour mériter quelque chose. Hein. Et vous pensez que Dieu vous doit quelque chose parce que vous auriez fait des bonnes œuvres. Il ne vous doit rien. Et quand vous aurez accompli sa volonté, dites encore, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous n'avons fait que ce qui était juste. Dieu ne nous doit rien. Alors nous voyons qu'il y a là un équilibre merveilleux. Je tiens à ma justice. Alors là, il a une leçon à apprendre. Et je ne faiblirai pas. Pourtant, quand il a été dans la présence de Dieu, il s'est effondré. Et il arrivera à dire, j'ai horreur de moi. Mais pour l'instant, c'est pas encore ça. Car il dit, mon cœur, et là je dirais pas que c'est un mensonge, un menteur, mon cœur ne me fait de reproche sur aucun de mes jours. Mes amis, est-ce que ça vous touche ou est-ce que ça ne vous touche pas? Mon cœur ne me fait reproche sur aucun de mes jours. Que de jours nous avons perdus. Qu'ont été nos journées, tiens. Je ne parle pas simplement de ce que vous avez fait avant votre conversion. Quand même terrible. L'année dernière, j'étais en Colombie-Britannique et un homme me disait, tu sais Gaston, je me souviendrai toujours de ce que tu m'as dit un jour à Nice quand tu faisais tes conférences et que je te disais, j'ai perdu tant d'années. Tu m'as dit, tu m'as donné ce verset de Joël 2, 25, disait-il, je te redonnerai les années perdues. C'est ce que le Seigneur peut faire. Hein? Mais alors, il faut vivre avec lui. Je te redonnerai les années perdues. Les années qui ont été mangées par la sauterelle, les liecs, et toutes ces bestioles-là. Que de bestioles dans nos vies qui ont ravagé nos vies. Eh bien, je peux te guérir de tout ça, je peux te redonner. Avec Dieu, on peut tout recommencer. Et un jour, dans ses parvis, un jour dans la communion du Seigneur, ça vaut mieux que 1000 ailleurs. Alors vous voyez, hein, un jour, ça vaut 3 ans, à peu près. Ça vaut la peine. Hein. Un jour avec le Seigneur vous donne 3 années. Que mon ennemi soit comme le méchant, et que celui qui s'élève contre moi soit comme l'homme injuste. Quelle espérance reste-t-il à l'impie quand on tranche son existence, quand Dieu lui retire sa vie? Ben voilà, c'est fini. La mort nous fixe dans l'état où elle nous a trouvés. Il n'y a pas de possibilité après la mort. Est-ce que Dieu écoute son cri quand la détresse arrive sur lui? Ferait-il du Tout-Puissant ses délices? Invoquerait-il Dieu en tout temps? Et depuis le verset 11, Job veut instruire. Je vais vous instruire de la puissance de Dieu. Vous avez voulu m'instruire de la puissance de Dieu. Toi, Bildad, hein, tu as essayé de me parler de
la puissance. Et moi, je peux aussi en parler de la puissance de Dieu. Je vais vous instruire. Je la connais, la puissance de Dieu. Et je ne vous cacherai pas les desseins du Tout-Puissant. Mais le pauvre Job, il pensait qu'il les connaissait bien. Et qu'est-ce qu'il apprendra? Qu'il a obscurci. En voulant tellement expliquer les desseins du Tout-Puissant, il a obscurci lui-même ses desseins par ses explications. Parce que nous ne connaissons qu'en partie. C'est pourquoi nous devons rester humbles. Mais vous tous, vous l'avez bien vu. Pourquoi donc vous laissez aller à la vanité? Tel est de la part de Dieu le lot de l'homme méchant. L'héritage que le violent reçoit du Tout-Puissant, s'il a des fils en grand nombre, c'est pour l'épée. Et ses rejetons ne peuvent se rassasier de pain. Ceux qui lui survivent seront ensevelis par la mort, et leurs veuves ne les pleureront pas. S'il amasse l'argent comme la poussière, s'il entasse les vêtements comme de l'argile, c'est lui qui entasse, mais c'est le juste qui se revêtira. Et c'est ce qui est arrivé tant de fois aussi. C'est l'innocent qui aura l'argent en partage. Il a bâti sa maison comme celle de la teigne, comme la cabane que fait un gardien. Il se couche riche, mais il ne sera pas enseveli ainsi. Il ouvre les yeux, et il n'y a plus rien. L'épouvante le surprend comme les eaux. Un tourbillon l'enlève au milieu de la nuit. Le vent d'Orient l'emporte. Et quand je pense à Hitler dans son blockhaus, là, et à sa fin, c'est terrifiant. Mais c'est ça, tout à coup, cet homme qui a fait trembler le monde. Ou quand je pense à Mussolini, quand j'étais en 1939 en Italie, et que j'entendais ses enfants qui disaient « Viva il Duce, viva il Duce !» Eh bien, comment a-t-il fini? Pendu par les pieds avec la Petacci, pendu par les pieds à Milan, et on lui crachait au visage. Alors qu'on l'a... Voilà, c'est ça le monde. Il a des idoles. Puis après, ces idoles, qu'est-ce qu'il en fait? Il les brise. Il fait des hommes des idoles, puis ensuite, il brise l'idole. Ne vous laissez pas emporter par les courants populaires. Restez dans la dépendance de Dieu. Dieu nous a retiré des dépens du peuple. Nous avons une politique, mais une politique qui n'est pas celle du monde. Nous sommes bourgeois des cieux, gens de la maison de Dieu, ambassadeurs. Et alors, nous sommes des étrangers ici-bas, des résidents temporaires, là où nous sommes. Et alors nous avons le témoignage. Quel est notre témoignage? Quelle est notre politique? Faire connaître notre pays. Et donner tous les renseignements sur notre patrie, notre vraie patrie céleste. Mais malheureusement, et ça me navre, et j'en pleure, les chrétiens même sont peu au courant des choses célestes. Et ils ne peuvent guère parler de leur patrie céleste. Et quand la mort vient, ils ne sont pas du tout préparés, et ils ne sont pas même heureux de s'en aller. Ils n'ont pas du tout la pensée de saint Paul qui disait « Être auprès du Christ, c'est pas une catastrophe, c'est de beaucoup le meilleur. Hein. » C'est un gain, oui, c'est un gain. Alors, donc, si je dois mourir, mais c'est un gain. Je sais où je vais, je sais qui j'ai cru, même si on me coupe la tête. J'ai raconté quand les Japonais couraient après ma belle-mère pour lui couper la tête, et on lui dit après... Mais alors, vous n'aviez pas peur, madame Arène? Mais non, mais qu'est-ce qu'il pouvait me faire? Il m'envoyait vers Jésus. Couper la tête, mais il m'envoyait vers mon Seigneur. Elle n'avait pas peur. C'est beau cela. Et ça arrive à 94 ans. Et jusqu'à 92 ans, on va voir encore les malades dans les hôpitaux, en plein hiver à Montréal. Et puis ici, elle allait visiter les enfants dans les hôpitaux à 92 ans. C'est tellement beau cela. Après avoir eu toutes les maladies possibles en Chine, le choléra, tout ce que vous voulez, avoir eu six enfants, et ces enfants, bien, elle les a élevés elle-même, et ils sont tous au Seigneur. Elle n'allait pas toujours aux réunions de son mari, parce qu'elle lui disait, écoute-moi, Dieu m'a donné les enfants, et c'est elle qui les a éduqués. Eh bien, c'est un travail, ça. C'est quelque chose de merveilleux. Je pense aussi à notre sœur qui est aussi auprès du Seigneur, Madame de Benoît, eh bien, qui me disait,
Le Seigneur m'a fait la grâce de mettre au monde deux fois mes enfants. Par la naissance physique, mais ensuite, par la nouvelle naissance. C'est elle qui était la mère spirituelle de ses enfants. Mère, selon la chair, mais mère aussi, selon l'esprit. Elle n'a pas compté sur la monitrice de l'école du dimanche ou sur des camps que l'on ferait un jour, non. Elle a compris que Dieu lui allait donner des trésors et elle les a élevés pour le Seigneur. C'est cela que nous devons saisir. Que le Seigneur nous visite ce soir. Alors on voit la fin du méchant. Il est arraché violemment de l'endroit où il est. Bien, voilà, j'ai parlé de Mussolini, j'ai parlé d'autres. D'Hitler, on lance sans ménagement des flèches contre lui, il doit prendre la fuite pour les éviter, on bat les mains à son sujet et on siffle à l'endroit où il était. Vous vous souvenez, enfin non, peut-être pas ici, mais quand nous étions en Europe, eh bien, il y a eu un soulagement quand on a su que, oui, c'était fini avec Hitler. Alors, chapitre 28, il n'y a pas de problème, c'est de nouveau, alors, un chapitre extraordinaire, d'une beauté merveilleuse, et nous aimons encore à le parcourir. C'est l'hymne à la sagesse, ou un poème sur l'inaccessibilité de la sagesse. Et ça rejoint le chapitre 8 de quel livre ? Les Proverbes, hein ? Il y a un endroit pour extraire l'argent. Et un lieu pour affiner l'or. Le fer est tiré de la poussière, et la pierre fondue produit le bronze. On met fin aux ténèbres. Alors là, on voit ce que l'homme est capable de faire. L'homme qui est la race de Dieu, avec sa technique. Mais il n'y a pas que les inventions modernes qui doivent nous frapper. Nous devrions savoir déjà ce que connaissaient les anciens. C'est remarquable. On met fin aux ténèbres. Oui, maintenant nous avons l'électricité. Hein. Mais déjà de ce temps-là, on explore jusque dans les endroits les plus profonds, les pierres cachées dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort. On creuse un ravin loin des lieux habités, les pieds ne viennent plus en aide et ils sont suspendus, balancés loin des hommes. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'image d'un puits et d'une nacelle quelconque qui descend ces hommes qui ne marchent plus, qui ne descendent plus avec leurs pieds, mais qui sont descendus, suspendus, balancés loin des hommes. La terre d'où provient le pain est bouleversée dans ses profondeurs, tout comme par un feu. Ces pierres sont l'endroit où l'on trouve du saphir, les pierres précieuses, nous y reviendrons, ainsi que de la poudre d'or. L'oiseau de proie n'en connaît pas le sentier, non, mais l'homme l'a vu. L'œil du faucon ne l'a pas regardé. Les plus fiers animaux ne l'ont pas foulé. Le lion n'y a jamais passé. L'homme, voilà. Voilà, la supériorité de l'homme, race de Dieu, au sommet de l'échelle. L'homme porte sa main sur le granit. Il renverse les montagnes depuis la racine. Mais c'est ce qui se fait aujourd'hui aussi. Il ouvre des tranchées dans les rochers. Quand on voit simplement une autoroute, et si vous faites la route du soleil à travers toute l'Italie, c'est fantastique. Mais ici au Canada, vous pouvez partir de Québec, hein, et puis arriver à Vancouver sans un feu rouge. Je ne crois pas exagérer. C'est extraordinaire, hein. Mais quel travail! Mais l'homme est capable, il est la race de Dieu. S'il mettait son intelligence au service de la bonne cause, il y aurait des choses fantastiques. Alors on comprend que quand le Seigneur régnera et dominera les cœurs, il y aura la prospérité dans le monde entier, quand il y aura la justice. Et son œil peut voir tout ce qu'il y a de plus précieux. Il arrête l'écoulement des eaux. Bien, vous le savez aussi comment ça se fait. Et il amène à la lumière ce qui est caché. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle aujourd'hui? Où est l'emplacement de l'intelligence? Qu'est-ce que c'est vraiment la sagesse? Qu'est-ce que c'est vraiment l'intelligence? L'homme n'en connaît pas le prix. Elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. L'abîme dit, elle n'est pas en moi. Et la mer dit, elle n'est point avec moi. Vous pouvez faire un long voyage, aller aux Indes et ailleurs pour chercher cette sagesse. Ce n'est pas la sagesse que vous trouverez. Et ce n'est pas intelligent de faire cela. La mère dit, elle n'est point avec moi. On ne peut donner à sa place de l'or pur. Ça ne s'achète pas. Ni peser de l'argent pour l'acheter. Elle n'entre pas en balance avec l'or d'Ophir. Un jour, j'étais à Ophir, justement, cette ville que les Israéliens avaient repris et qu'ils ont dû rendre aussi. Et vraiment, on est impressionné quand on se trouve dans ces lieux qui nous ont parlé dès notre enfance au sujet de la Bible, l'or d'Ophir, un or très précieux. Ni avec le précieux onyx, ces pierres qui étaient sur les épaulettes de l'éphod du sacrificateur et une pierre d'onyx aussi sur le cœur, hein, sur le pectoral de l'éphod, ce qui nous montre que les noms des tribus étaient gravés sur le cœur du sacrificateur et sur ses épaules. Et quand il entrait dans la présence de Dieu, il portait les fils d'Israël devant Dieu, sur son cœur, dans ses affections, sur ses épaules, siège de la force. Eh bien, le Seigneur, qui est notre souverain sacrificateur, nous porte lui aussi. C'est ce que nous fait penser la pierre d'onyx, parce que nous voulons toujours revenir au Seigneur. Verset 17, ni l'or, ni le verre ne peuvent lui être comparés. On ne peut l'échanger contre un vase d'or fin. Le corail et le cristal ne peuvent même pas être évoqués. Posséder la sagesse, qu'est-ce que vous voulez? La technique d'abord, ou bien la sagesse? Pourquoi est-ce qu'il y a le prix Nobel? Parce que celui qui a inventé la dynamite a été bouleversé de voir l'emploi qu'on en faisait. C'était pour aider l'humanité. Puis après, oui, ça a aidé dans un sens, mais après, on l'a employé pour tuer, et on l'emploie encore maintenant. Alors, qu'on voulait travailler à la paix, et on travaille au massacre. Posséder la sagesse vaut plus que les perles. La topaze d'Éthiopie ne peut lui être comparée. Elle n'est pas en balance avec l'or pur. Alors, d'où vient la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tout être vivant. Elle est dissimulée aux oiseaux du ciel. L'abîme de perdition et la mort disent, nos oreilles en ont entendu parler. C'est Dieu qui comprend, qui en comprend le chemin. C'est lui qui en connaît la demeure. Alors donc, c'est vers lui, c'est avec lui qu'il faut avoir affaire. Verset 24. Car c'est lui qui regarde jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez, on a vu, les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Son regard s'étend sur toute la terre, afin de se montrer fort à l'égard de celui qui a un cœur parfait. Avec lui, bien, les yeux du Seigneur regardent jusqu'aux extrémités de la terre. Il voit tout sous les cieux. Et dans ce tout, tout y est, hein, il voit tout sous les cieux. Pas seulement sous les cieux, mais dans nos cœurs. Il nous connaît, comme nous l'avons vu ce matin dans le texte du jour. Il connaît ce qui est dans nos cœurs. Il connaît notre pensée alors que la parole n'est pas encore sur notre langue. Quand il détermina le poids du vent, et qu'il fixa la mesure des eaux, quand il donna une règle à la pluie. Vous la connaissez, la règle à la pluie? Dieu a donné une règle à la pluie. Et une route à l'éclair et au tonnerre. Ça nous donne une paix au sein d'un orage terrible, et qu'on est seul pour traverser peut-être une forêt ou la campagne, et puis on voit la foudre qui peut tomber ici, puis on se dit, mais elle va peut-être tomber sur moi. Il commande à l'éclair où il doit frapper, dirons-nous un peu plus loin. Alors on est tranquille. Mais c'est vrai! C'est vrai! Le Seigneur est puissant. Et on y croit, sa parole. C'est pas un texte de Job, ça. C'est la parole de Dieu. Quand dont il détermina le poids du vent et qu'il fixa la mesure des eaux. Quand il donna une règle à la pluie et une route à l'éclair et au tonnerre, alors il vit la sagesse et la manifesta. Il en posa les fondements et la scruta jusqu'au fond. Puis il dit à l'homme, alors on finit là, qu'est-ce qu'il dit? Voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. Ça vaut la peine d'arriver là. Qu'est-ce que c'est qu'au fond la sagesse? C'est la crainte du Seigneur, pas la peur de Dieu, mais vivre dans la crainte de lui déplaire. Seigneur, je désire te plaire. C'est ça la sagesse. Si vous voulez lui plaire, vous aurez toujours le Seigneur avec vous. Croyez-le. C'est Jésus qui l'a dit. Vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul. Parce que le Père est avec moi, parce que je fais toujours les choses qui lui plaisent. Et puis, quant à l'intelligence, qu'est-ce que c'est? S'écarter du mal, c'est cela, l'intelligence. C'est s'écarter du mal. Et c'est bien pour ça qu'il est dit dans Romains 3, il n'y a personne qui ait de l'intelligence. Bien, voyez-vous, il n'y a pas de commentaire vraiment à faire ici. Il y avait à s'imprégner de ces textes, à les connaître, à les laisser entrer jusqu'au plus profond de nos cœurs. Et je veux croire que cette parole sera en bénédiction pour vos âmes et que demain nous pourrons alors envisager le chapitre 29 et 30. Alors, vous allez avoir une révélation. Vraiment, vous allez apprendre à connaître Job dans le chapitre 29 et 30. Et j'ai gardé le chapitre 31 pour le soir parce que c'est le dernier et il est d'une richesse extraordinaire. Et alors, là se terminera les paroles de Job. Demain déjà, nous en aurons fini avec les paroles de Job. Sinon, la réflexion qu'il fera au Seigneur, parce que nous allons entendre après un quatrième personnage qui est Élihu, mais auquel Job ne répondra pas. Élihu prépare en quelque sorte la venue de Dieu qui va lui parler du sein de la tempête. Nous prions. Comme le psalmiste, nous pouvons dire ce soir, j'ai de la joie en ta parole, comme un homme qui trouve un grand but. Comme Jérémie, nous nous écrions, tes paroles se sont-elles trouvées? Je les ai mangées, elles ont fait l'allégresse et la joie de mon cœur. Oui, ta parole nous fait vivre. Et nous voulons te demander qu'elle soit toujours une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Et que cette parole ne reste pas dans les couvertures de nos Bibles, mais qu'elle s'inscrive sur les tables de chair de notre cœur. Et que par la puissance de ton esprit devenant notre mémoire, elle nous rappelle, jour après jour, moment après moment, ce que tu désires. Car ta parole est la vérité. Et ta parole, c'est l'expression de ta pensée, et ta pensée, c'est la vérité à l'égard de toutes choses. Oh, donne-nous de comprendre cela, et de rechercher non plus ce que les hommes pensent, ou d'écouter toujours ce que les hommes disent. Donne-nous d'entendre ta voix. Donne-nous d'aimer, être dans ta communion, et que notre bonheur se manifeste déjà sur la terre, à ce monde qui se désespère, à ce monde qui vit dans la crainte, qu'il puisse voir des hommes et des femmes qui sont dans le repos, dans la paix, tout en travaillant, qui ont des épreuves, mais qui restent confiants dans les épreuves, et que ce soit un tel témoignage de nos vies que ces hommes et ces femmes qui sont dans le doute, dans l'angoisse,
puisse s'approcher et nous demander la raison de l'espérance qui est en nous. Et qu'alors nous puissions ouvrir la bouche pour dire dans la simplicité de nos cœurs ce qui en est pour nous. Ô notre Dieu, c'est notre prière. Nous avons tellement parlé de toi et nous t'avons si peu montré dans la vie pratique. Nous te demandons pardon. Nous nous humilions parce que bien souvent nos vies ont été un obstacle pour que les gens viennent à croire. Et c'est pourquoi nous te prions d'opérer en nos cœurs, dans ces journées, dans ces moments qui viennent, un véritable réveil de nos âmes pour ta gloire et notre bonheur sur la terre